Alors bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure biologiquement la plus difficile. Après la vie, l'heure de la digestion est une heure fatale, que ce soit pour des cours dans un institut biblique ou pour un séminaire. Donc je pense que la prière n'est pas de trop pour demander au Seigneur de nous garder dans l'éveil et dans la réception de ce qu'il peut vouloir dire. Et pour vous et pour moi, c'est une grande joie encore de pouvoir partager un peu la parole avec vous. Et j'ai vu que, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé en bas avec le groupe des femmes, on n'a même pas pu avoir un moment pour reboucler. J'espère que c'était chouette. En tout cas ici, c'était bien aussi autour des tables, hein, avec les questions et tous les échanges qu'on a eus, et les résumés en moins d'une minute que j'ai beaucoup apprécié de chacun ici. C'était ironique. Mais on a tellement de choses à se dire que c'est un peu normal qu'on ait dépassé le temps. Alors, il y avait une question, bien sûr, c'était la dernière des questions que vous avez tous abordées dans les groupes, j'imagine, qui parlait du relais. Comment passer le relais? Et je pense que c'est une partie importante du serviteur, de la servante, selon le cœur de Dieu, cette notion de relais. J'ai noté que dans beaucoup de cas, le relais peut être envisagé comme un souci, un fardeau. Notamment, cette image du relais, dans les courses de relais, vous savez, c'est pas pareil que les courses, qu'une course de 100 mètres ou de 400 mètres classiques. Une course de relais présuppose un entraînement de toute l'équipe pour passer ce témoin. Je me souviens d'une fois, c'était pendant les JO, je ne me demandais plus quelle année c'était, où il y avait une équipe américaine qui avait été disqualifiée en finale de 4x100 pour le relais. Et en fait, leur stratégie, c'est qu'ils avaient mis les meilleurs des meilleurs, les 4 meilleurs sprinteurs des States étaient là sur la cendrée. Et bien sûr, tout le monde avait peur de cette équipe parce que c'était 4 monstres de l'athlétisme. Et ils ont lamentablement échoué parce qu'ils étaient tous individuellement tellement, tellement forts. Mais ils avaient oublié que la course de relais, c'est une course d'équipe. Et ils ont failli, notamment dans l'espace fatidique où tu dois passer le relais. Et si tu dépasses cet espace-là, tu es disqualifié. Ils ont été disqualifiés à cause de ça. Et je me rappelle de l'un d'entre eux qui pleurait en prenant son t-shirt et qui s'enfouait enfouillait le visage dans son t-shirt. Il était à genoux sur le côté de la cendrée, il pleurait pendant que les autres continuaient à courir. Des équipes beaucoup moins douées ont gagné ce jour-là. Donc ça donne des leçons, n'est-ce pas? Et on peut se poser la question du passage du témoin dans l'œuvre de Dieu, parce que ça fait partie intégrante du service pour le Seigneur, et ça fait aussi appel à des choses profondes qui sont dans nos cœurs. Bien souvent, quand on parle du passage du relais ou du passage des responsabilités, on entend souvent ce genre de remarques. Oui, mais aujourd'hui, les gens ne s'engagent plus. Ils ne veulent plus prendre de responsabilités. Avant, les gens s'engageaient beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans l'équilibre de leur famille, de ci et de là, et ils ont de la difficulté à s'engager vraiment d'une manière sacrificielle dans l'œuvre du Seigneur, et on ne trouve pas qui c'est qui pourrait prendre le relais. C'est peut-être une partie du problème, mais ce n'est pas tout le problème. Et je pense qu'un véritable leader aura plutôt besoin de se poser les questions à lui-même. Pourquoi est-ce que le passage du témoin est parfois si difficile? Car enfin, quand on regarde autour de nous, on s'aperçoit que beaucoup de personnes sont enthousiasmées pour l'œuvre du Seigneur. Nous avons parlé des CFB tout à l'heure. En France, comme vous le savez, nous avons commencé cette expérience du CFB il y a de cela maintenant à peu près une quinzaine d'années. Et nous avions commencé, on avait 10-12 jeunes, on était tout contents qu'il y ait des jeunes qui se soient inscrits pour cette université d'été, on va dire, hein, de la parole de Dieu. Et puis au fil des ans, sans qu'on ait fait aucune publicité, du bouche à oreille, le camp s'est rempli, on est passé de 12 à 15, 20, 25, 30... 40, 50, 60, comme j'expliquais hier, on a dû arrêter de prendre des inscriptions parce que le camp où on était avec le staff et puis les cuisines, etc. et les animes, on était au maximum de notre capacité, alors il a fallu ouvrir un autre centre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute une génération qui est en train de se lever pour la parole de Dieu. L'enthousiasme est là. Il y a des personnes qui sont prêtes, et des jeunes personnes qui sont prêtes à mettre du temps à part. Des gens qui veulent se consacrer, il y en a. Des disciples du Seigneur, il y en a. Donc le relais est quelque chose qui logiquement doit arriver dans les églises. Le Seigneur a donné les capacités, il a donné le potentiel dans les églises et dans les unions d'églises pour que son œuvre puisse continuer. Personne ne peut arrêter l'œuvre du Seigneur. Mais comment se fait-il que le passage du relais soit parfois si difficile? Je n'ai pas de réponse exhaustive, mais cette question, elle me renvoie personnellement au plus profond de mon cœur. Le passage du relais. Pensez à la succession. Pensez à la transmission. Pensez à ce qui viendra après moi, après nous. C'est une question tellement importante, n'est-ce pas? Et elle nous ramène à des questions d'éternité aussi. Nous ne sommes que de passage. Le Seigneur nous a jamais dit de courir 400 mètres. On a un tour de piste à faire. Un seul tour. Et c'est notre vie. Et à la fin, ce qui va compter, c'est la manière dont on a passé ce témoin. C'est là où il faut prier de ne pas être disqualifié, de ne pas l'avoir passé trop tôt ou trop tard. C'est délicat. J'ai connu des serviteurs de Dieu qui ont eu une carrière extraordinaire. Et sur la dernière image de leur carrière, ils se sont plantés. Et ce qu'on retient d'eux, c'est la manière dont ils se sont plantés, la dernière image qu'ils ont laissée. Quelle est la dernière image que je vais laisser? Quelle est la dernière image que tu vas laisser de ton service en tant que serviteur, en tant que servante, selon le cœur de Dieu? Passer le relais est une question profonde. Je suis très reconnaissant au Seigneur. Et personnellement, je pense, pas à la chance, mais je pense que le Seigneur avait pourvu, pour un être que moi, tel que moi, à une réflexion sur passer le relais. J'ai eu le privilège de pouvoir faire des études de théologie lorsque nous avons été, ma femme et moi, dans cette décision de, pour moi, donner ma démission de la bijouterie et puis de partir pour se former dans un institut de biblique pour le plein temps. Je déteste cette expression du plein temps. Mais vous voyez ce que je veux dire, quand même. On est tous à plein temps pour le Seigneur. Hein. Mais voilà. On ne pouvait plus cumuler une activité séculière, et avec ce qu'on faisait, ça faisait juste trop, quoi. Donc à un moment donné, il a fallu choisir, c'était un choix pratico-pratique, avec une motivation dans le cœur, et on s'est retrouvé dans un institut biblique. Et comme les missionnaires qui nous avaient annoncé l'évangile étaient écossais, remarquez, essayez de deviner quoi, on s'est retrouvé en Écosse. On s'est retrouvé en Écosse pour se former pour le service en France, dans notre propre ville. C'est là que j'ai compris que ces voix ne sont pas nos voix, et que j'ai arrêté de discuter avec le patron. C'est l'autorité qui sait ce qu'il fait. Et donc on s'est retrouvés ici, quelque part en Écosse, certains connaissent peut-être, à Madowell, en Écosse, c'est près de Glasgow. Là, on a passé une année à l'écoute de la parole, on a beaucoup appris, on continue à beaucoup apprendre. Ça a été un investissement pour nous, un investissement pour les 15 années suivantes de notre vie au moins. Qu'on ne me dise pas que du temps passé dans un institut biblique est du temps perdu. Quand j'entends aujourd'hui dans certaines familles chrétiennes un enfant qui veut faire un institut biblique, qui a donné les preuves qu'il travaille, que c'est quelqu'un de motivé, que c'est quelqu'un qui a vraiment une vie qui va avec. Et on dit des fois à cet enfant, oui mais attends, tu dois penser à ta carrière. Tu dois penser à ta carrière. Qu'on arrive à penser en transmettant justement ce que nous on a reçu à nos enfants, pour ceux qui en ont. Hein. Et je parle pour moi en tant que père. Premièrement, la réussite de nos enfants, c'est leur réussite spirituelle. Il y aura, j'espère aussi, des réussites professionnelles, des réussites relationnelles. C'est plus important que la profession. Mais la priorité, c'est quand même la réussite spirituelle. Qu'eux aussi fassent un tour de piste et, pardonnez-moi l'expression, qu'ils cassent la baraque, quoi. Qu'ils fassent vraiment quelque chose de bien pour le Seigneur pendant leur vie. Et des fois, ça passe par un institut biblique. Pas toujours, mais ça passe. Pour nous, c'est passé par là, à un moment donné, et on a appris beaucoup, beaucoup de choses. et on continue d'apprendre. Ça nous a formés à un esprit d'apprentissage, de disciples. Je pense que jusqu'à notre dernier souffle, on continuera d'apprendre et de continuer à nous émerveiller de la parole de Dieu. On a toujours plein de choses à apprendre. Le plus on apprend sur la parole de Dieu, et le plus on se rend compte qu'on a tellement à apprendre. Tellement, tellement à apprendre. Elle est tellement grande, la parole de Dieu. Tellement profonde. Je vais arrêter là, c'est pas mon sujet. Alors, la délégation. Et c'est là, donc, en Écosse, qu'on a été à l'écoute de la parole de Dieu. Et je me souviens d'une chose qui nous avait beaucoup marqué. On nous avait parlé de l'appel missionnaire. Or, mon épouse et moi, il se trouve qu'on se voit plutôt comme ça, comme missionnaires au sein de notre propre peuple. Et ça nous a donné quand même pas mal d'éléments de réponse. Pourquoi, quelquefois, le relais se fait difficilement? Et une des réponses, je dis bien une des réponses, c'est que quelquefois, on n'anticipe pas assez le passage du relais. C'est-à-dire que nous ne sommes pas formés, vous et moi, avant même de commencer à courir cette course de relais, à ce qu'on nous dise, hey, tu sais quoi, il va falloir que tu passes le relais. C'était l'erreur qu'avait fait cette équipe des States, rappelez-vous. Ils savaient tous courir, mais on ne leur avait pas dit comment passer le témoin. Et je crois que c'est bien de réfléchir à comment passer le témoin avant de commencer à courir. Avant de commencer à courir. On a eu un privilège énorme, c'est que justement on arrive dans ce centre qui était un centre GLO, un centre missionnaire, et là on a eu un cours sur passer le témoin. C'était quelque chose de simple, il fallait que ça soit simple avec moi. Mais ça m'est resté là. Et c'était très simple, quatre mots qui commencent par P, donc ça je peux me rappeler facilement. Et voilà, en gros, ce qu'on avait reçu. Au début de ton ministère, tu es pionnier. Alors pour nous, c'était vraiment le cas, puisqu'on a été impliqué dès le début dans l'implantation d'église. Mais quel que soit le ministère qu'on reçoit, on est quelque part pionnier. On commence et on commence de rien, n'est-ce pas? C'est la première phase de notre ministère. Le ministère pionnier, ça commence par P. Ensuite, si le Seigneur bénit et si le Seigneur déverse sa grâce sur le ministère, on peut devenir ce qu'on appelle parent. Alors, parent, ça peut être à plusieurs titres, et d'ailleurs, vous pouvez même appliquer cela à une famille. Mais vous pouvez, dans le ministère, ça a été donné dans cet esprit-là. Parent, dans le sens, tu deviens parent spirituel. Peut-être que le Seigneur t'a donné la grâce de pouvoir mener des personnes au Seigneur. Ou peut-être, tout simplement, il va te donner des jeunes disciples à adopter. Et pour eux, tu vas devenir parent. Le mentorat, très important, le mentorat. Être un mentor pour les plus jeunes, ça peut être aussi ça, devenir parent. Qu'est-ce que je vais transmettre à des gens plus jeunes? Donc après pionnier, parent. Ok. Troisième phase, du ministère partenaire. Partenaire, c'est un petit peu comme dans la famille. On a des enfants. À un moment donné, les enfants, ils grandissent. Tu sais, au début, tu t'amuses à la bagarre avec eux et tu fais semblant de perdre. Et après, tu t'amuses à la bagarre avec eux et tu n'arrives plus à gagner. Ça veut dire qu'ils sont devenus aussi forts que toi. Et en fait, tu t'aperçois que tu ne peux plus vraiment les traiter comme des enfants parce que ce sont des hommes. Et tu deviens plus, et je parle dans un sens spirituel d'ailleurs, tu deviens plus un partenaire. Tu ne peux plus juste être le parent. Mais tu trouves envers ces personnes-là quelqu'un maintenant qui est pratiquement de ta stature et avec qui tu vas collaborer. Et ça, c'est une période, une phase très très intéressante de la vie qui peut donner beaucoup de joie. Et puis la dernière phase, c'est quand tu deviens participant, tu sais. Ça commence par P aussi, c'est génial, hein ? Ça marche en anglais. Je ne sais pas en allemand ou en flamand, mais en anglais, en français, ça marche. Et tu deviens donc participant. Ça veut dire que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ça ne change pas grand-chose. Tu es devenu juste une personne du groupe, quoi. Et ça tourne très bien sans toi. Quand tu es là, on est content de te voir. Quand t'es pas là, ça tourne quand même. Et voilà. Tu peux même te dire, ça tourne mieux même quand je suis pas là. Tu sais, l'autre culte, ah, t'étais pas là? Non, on a eu une bénédiction extraordinaire. C'est normal, j'étais pas là. Ça dépend comment tu vis ces choses-là dans ta vie. Tu peux les vivre d'une façon très douloureuse ou tu peux les vivre d'une façon pleine de joie. L'enseignement qui nous avait été donné, et c'était un enseignement qui était donné par des missionnaires plus expérimentés. Je crois aussi au conseil des aînés, vous savez, l'expérience de ceux qui ont couru avant nous. C'est super important. On a beaucoup à apprendre des gens plus expérimentés, des gens qui étaient partis en mission et qui avaient expérimenté ces choses-là. Il disait, en fait, je ne sais pas si ça marche avec les couleurs, là. Il disait, en fait, voilà, tu as les deux premiers et puis tu as les deux derniers. En général, quand un ministère se passe bien, on passe d'une étape à l'autre. Là où souvent il y a eu un problème de délégation, c'est quand on a eu de la difficulté à passer de parent à partenaire. En général, le pionnier n'a pas beaucoup de peine de passer de pionnier à parent. Il commence de rien, et puis il devient parent, mentor, parent spirituel, et ça, le pionnier, la pionnière, elle le vit très bien. Mais par contre, de passer de parent à partenaire, c'est là qu'il y a un exercice de cœur particulier, qui se fait ou qui ne se fait pas. On a parlé du serviteur selon le cœur de Dieu. Et là, il y a un petit processus de deuil. Allez le croire si vous voulez ou pas, on est fabriqué de telle manière que ça nous demande un exercice de cœur devant le Seigneur pour passer de parent à partenaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va s'apercevoir que les gens que nous avons formés sont devenus aussi grands que nous et que nous ne pouvons plus interagir de la même façon avec eux. Mais si on passe bien de parent à partenaire, l'enseignement que nous avions reçu, c'était ça. On passe bien ensuite de partenaire à participant. Le travail de deuil se fait entre parents et partenaires. Après le reste, ça suit. Et quand tu t'aperçois que tu es assis au fond de la salle, toi tu as enseigné, tu as prêché, tu as amené des gens à Christ, tu les as formés à la prédication, un jour tu te rends compte que tu n'es juste qu'une personne parmi le programme des prédicateurs de l'Église, et un jour tu te rends compte que tu es assis à la dernière place et que la personne qui prêche, que tu as formée ça fait plusieurs années, elle prêche mieux que toi. Comment est-ce que tu vis la chose? Comme une menace ou comme une victoire? Comme une grande joie? Avec la petite pensée, j'ai plus rien à faire ici. Mon papa spirituel m'avait dit ceci, il avait dit « Tu réussiras ton ministère quand tu deviendras parfaitement inutile. » J'ai travaillé dur à devenir inutile. Très dur, hein. C'est dur de devenir inutile. Mais alors quelle joie quand tu arrives à devenir parfaitement inutile. Et c'était tout à fait en accord avec ce que le Seigneur dit, hein, quand il va nous recevoir et que nous dirons, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Pourquoi inutiles? Parce que le Seigneur n'a pas besoin de nous. Et que s'il nous fait la grâce de pouvoir courir 100 mètres pendant notre temps de vie avec lui, c'est une grande grâce qu'il nous fait. Il aurait pu se passer de nous. Il aurait pu courir la course tout seul. Pourquoi est-ce qu'il a choisi des gens comme toi et moi? Nous sommes parfaitement inutiles. Et c'est bon, au cours des années, de s'en rendre compte toujours plus qu'on est inutile. Alors ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé, parce que si on n'a pas intégré ça au début de son ministère, avant même de commencer son ministère, et qu'on n'a pas compris que ces étapes-là sont des étapes normales dans un ministère, eh bien, il peut y avoir des problèmes. Imaginez la personne pionnière qui devient parent et qui pense vraiment que toute l'œuvre repose sur ses épaules. Elle n'arrivera jamais à devenir partenaire. Par contre, si la réflexion est faite avant la course de relais, alors ces étapes-là seront vécues comme des choses normales de la vie. Il faut reconnaître que nous ne sommes pas toujours formés à la délégation. La délégation est un art. Et je crois que la délégation fait carrément partie intégrante de l'Évangile. L'Évangile se transmet de génération en génération. Dans notre message même, il y a eu transmission. On nous parle de transmission partout dans l'Évangile. Pourquoi est-ce que nous n'intégrons pas facilement ces étapes de transmission dans le ministère? Peut-être parce que des fois nous avons pris la course et que nous n'avons pas appris ces choses avant de commencer à courir. Ces étapes, ce travail, elles ne s'improvisent pas. Elles se préparent. On avertit, des fois des années à l'avance, que la prochaine étape qu'on va vivre, c'est cette étape-là. On se souvient, Marie-Christine et moi, à un moment donné, quand on avait fait à peu près 18 ou 19 ans d'implantation d'église à Marseille. Et on voyait l'étape suivante, parce qu'on était devenu parfaitement inutile, on était devenu participant. Et on avait commencé à annoncer qu'on pensait peut-être à redevenir pionnier ailleurs. Et on a eu à ce moment-là toutes les attaques de Satan. Et curieusement, ce n'était pas des attaques frontales, ce n'était pas des cauchemars, des trucs, éruption de boutons, ou ça sent le souffle, ou quoi que ce soit. Ce n'était pas du tout ça. Hein. C'était des petites paroles comme « Mais qu'est-ce qu'on va faire sans vous ?» Comme ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien à l'orgueil. Mais si vous partez, on ne pourra plus faire ça. Oh, ça fait du bien aussi. Hein. Mais pensant, Seigneur, pardonne-moi d'avoir des pensées pareilles, sont indignes de toi. Seigneur, je me repens de penser des choses comme ça. C'est un péché. Mais la chair, elle aime entendre ces choses. Et vous êtes sûr que vous devez partir? Vous ne pourriez pas rester encore quelques années de plus? Ah, c'est plus confortable. C'est tellement plus confortable. Et si on restait, mais qu'on partait quand même, mais sans partir, mais en restant? Tu vois? On commence à négocier, là. Tu regardes, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, une des meilleures manières qu'il a eu d'enseigner, ça a été son absence. Et oui, il a enseigné, et puis il est parti. Et c'est dans l'absence que les églises qu'il avait implantées sont devenues missionnaires. Pas dans sa présence. Quelquefois, c'était Dieu qui faisait en sorte qu'il parte un peu plus vite. D'autres fois, c'était intentionnel. On dit en France, il n'y a rien qui pousse au pied des grands arbres. Tu vois ce que je veux dire? Tu as vu au pied des grands arbres? Il n'y a rien qui pousse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça pousse? Il faut que l'arbre ne soit plus là. Non, on ne pouvait pas rester et partir en même temps, partir, rester. Ou alors il faut savoir rester en étant absent. C'est possible. Mais dans tous les cas de figure, il faut partir. Il ne faut plus être là. Pour que ces partenaires d'hier, qui sont aujourd'hui capables, puissent à leur tour prendre des responsabilités, développer leur propre style, faire les choses peut-être un petit peu différentes de ce qu'on aurait fait. Mieux. Probablement mieux. Et on va dire Amen, Alléluia, ça veut dire que l'Évangile grandit. N'est-ce pas? On se réjouit de ça. Ça fait partie de la mort à soi-même. Cette délégation fait appel aux choses les plus profondes que nous avons dans notre cœur. Un serviteur, une servante, selon le cœur de Dieu, réfléchit profondément à ces choses. Ce ne sont pas des choses qui doivent arriver par fatalité, à cause de l'âge, ou à cause qu'on n'est plus capable de faire ceci. Donc, je pense que c'est même quand on est en pleine force et capable d'eux qu'on doit déjà penser à ces choses. À l'âge auquel nous sommes arrivés, Marie-Christine et moi, nous pensons, enfin moi, parce que toi tu es à l'âge où je suis arrivé, moi, je pense qu'une des choses les plus sages que je puisse faire, c'est de passer ce que je sais à des plus jeunes. Je suis capable encore d'aller en première ligne. Mais est-ce que c'est sage que j'y sois tout le temps? Est-ce que c'est sage que j'y sois tout le temps? Non. Peut-être mieux aujourd'hui que je puisse former d'autres pour qu'ils aient la joie de faire ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai eu la possibilité d'avoir des responsabilités, on m'a fait confiance. J'ai fait plein d'erreurs. J'en fais encore. Mais si on n'avait pas eu cette facteur risque avec Philippe, où est-ce que je serais aujourd'hui? Je me rappelle des fois d'invitations où j'ai parlé devant un millier de personnes. J'avais tellement peur avant que j'avais envie de vomir, quoi. Mais la personne qui m'avait invité, elle m'avait fait confiance. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, est-ce que je suis capable de faire pareil? J'étais juste un jeune et il m'avait demandé de faire ça. Il m'avait fait confiance. Je suis très reconnaissant pour les aînés qui m'ont fourni la possibilité de faire des erreurs et qui ont su me passer le témoin à temps, alors qu'ils étaient eux-mêmes capables de continuer à courir. Mais dans cette surface, vous savez, dans cette surface qui est très très importante, ils m'ont passé le témoin au bon moment. Je l'ai pris, j'ai commencé à courir. Aujourd'hui, je pense à le donner. Tout à fait normal. Je voudrais terminer par une vision. Parce que avec ce avec quoi on lutte ici, c'est quelque chose qui s'appelle peut-être l'orgueil, ou le pouvoir. Il faut le dire. Nous sommes des gens qui aimons le pouvoir. Et ça, c'est depuis la chute. C'est comme ça. Vous et moi, on est des pécheurs. On est des pécheurs pardonnés. On doit mourir à nous-mêmes pour pouvoir grandir en Christ. Mais nous aimons le pouvoir. Il me semble que dans le désert, lorsque le dernier Adam a été tenté, notre Seigneur, il a combattu les tentations, non pas pour lui-même, mais pour nous. C'est ma lecture des tentations de Jésus dans le désert. Il a réussi là où Israël avait failli. Il a réussi là où Adam avait failli. Là où Israël avait négligé la manne, qui est pourtant la parole de Dieu, il avait dit « Afin que l'homme se souvienne qu'il ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'était marqué dans Deutéronome. On avait négligé la manne, il a préféré la faim au pain qui pouvait transformer les pierres. Et pourtant, il a réussi là où Israël et où Adam avait failli. Et il me semble que le Seigneur a été tenté pour nous. Il a été tenté dans ses besoins physiques, lorsqu'on a parlé du pain, après 40 jours de jeûne. Il a été tenté dans son attrait du monde, quand Satan lui a montré tous les royaumes de la terre, et qu'il a dit qu'en fait, il devait adoration à Dieu et à lui seul. Et il me semble qu'il a été tenté dans ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Quand Satan l'a mis sur le pinacle du temple, selon une ancienne tradition hébraïque, on pensait que le Messie allait venir au moment de l'offrande du soir et qu'il allait descendre du pinacle du temple jusque dans le parvis et que c'est là qu'on allait découvrir qu'il était le Messie. Quand Satan le met sur le pinacle du temple, il lui dit « Puisque tu es le Messie, alors jette-toi d'en haut en bas, la parole de Dieu te soutiendra. » C'était une terrible tentation. C'était une terrible tentation, c'était la tentation de l'orgueil spirituel. Mais le Seigneur a dit, à ce moment-là, qu'on ne devait pas tenter le Seigneur. Et il a chassé Satan. Il me semble que cette troisième tentation, si la première tentation, c'est la tentation des besoins physiques, et souvent chez les jeunes disciples, c'est le domaine sexuel. Ça fait partie aussi de ce que le serviteur ou la servante de Dieu doit gérer dans son cœur pour devenir efficace pour le service du Seigneur. Il me semble que la deuxième tentation, ça a été l'attrait du monde. Et c'est souvent quelque chose qui est résumé pour nous à l'argent. Et tout ce que l'argent peut apporter. Notre rapport à l'argent. La troisième tentation, souvent, on l'occulte un petit peu, et elle peut rester jusqu'à très tard dans la vie. C'est la tentation de l'orgueil spirituel ou du pouvoir. Du pouvoir qu'on a accumulé avec notre expérience, avec notre connaissance, avec notre savoir, avec notre réputation, avec notre nom. Puisque tu es maintenant ceci, tu peux faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Le pouvoir. Passer le relais demande un travail de nous tous sur la question du pouvoir, comme on a dû travailler dans le domaine sexuel. Comme on a dû travailler dans notre rapport à l'argent, le rapport au pouvoir est souvent peu enseigné, mais c'est quelque chose de clé. Et la raison pour laquelle le principe de délégation se fait quelquefois mal, je ne dis pas à tous les coups, c'est quelquefois parce qu'il y a eu un mauvais rapport au pouvoir. Et donc, c'est effectivement, on a la difficulté de passer de parent à partenaire. Ce travail dans le cœur ne peut être fait qu'avec le Seigneur. Le Seigneur a vaincu toutes les tentations pour nous et il nous rend capables de le servir. Je voudrais juste terminer par une vision glorieuse et j'aurai fini de parler. C'est une vision que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et je vais lire avec vous ce texte. Qui se trouve au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. C'est une vision glorieuse que l'apôtre Jean va voir après que le Seigneur se soit adressé aux sept églises. Et il dit « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, anciens, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Est-ce que vous pouvez voir cette vision avec moi? Vous avez pu vous la représenter? Vous vous mettez 2 minutes dans les chaussures de Jean, et vous voyez ce qu'il voit. Vous le voyez? Ce trône glorieux, avec quelqu'un qui est assis dessus. Waouh! Extraordinaire, non? Le monde n'est pas le fruit du hasard. Ce qui se passe est contrôlé d'en haut. Quelqu'un est aux commandes. Ça fait du bien, non? Je vis un trône et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et puis il voit 24 trônes autour de ce trône. Et sur ces 24 trônes, il décrit 24 vieillards qui ont des couronnes d'or. Et je vous pose la question qu'on s'est posée pendant des siècles dans l'Église. Qui sont ces 24 vieillards? Qui sont ces 24 anciens? Est-ce que vous le savez? Vous imaginez la scène? Ce trône qui est environné de l'arc-en-ciel, ça fait déjà un cercle, et maintenant il y a un autre cercle autour avec ces 24 trônes. C'est une vision glorieuse. Qui sont-ils? Est-ce que c'est une vision symbolique? Est-ce que ça représente le peuple de Dieu? Vous et moi? Est-ce que ça représenterait les croyants de l'Ancien Testament avec les croyants du Nouveau Testament? Vous savez, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, ça fait 12 plus 12, 24, ça marche. Pensez que c'est ça? Qui sont ces 24 vieillards?
L'Église, les rachetés.
Il en a été écrit des choses là-dessus. Hein. Mais vous savez ce que c'est que la réponse? Tu sais? On ne sait pas. On ne nous l'a pas dit. Donc on ne sait pas, on ne va pas spéculer. La Bible ne l'a pas dit. On ne va pas trouver des réponses là où la Bible ne nous a pas donné de réponse. On ne sait pas qui sont ces 24 vieillards. Mais on sait une chose. C'est qu'autour du trône, il y a 24 trônes. Vous ne pensez pas que s'il y en avait bien un qui aurait pu tout faire lui-même, c'est la personne qui est assise sur le trône central? Il n'a pas besoin de ces 24 trônes. Puisque, vous l'avez compris, cette personne, c'est Dieu qui est assis sur le trône, n'est-ce pas? Et pourtant, autour de lui, il y a 24 trônes. Et vous avez remarqué, sur leur tête, ils n'ont pas des couronnes en papier, hein, comme pour l'épiphanie. Ils ont des couronnes d'or. C'est pas des marionnettes, ce sont des rois. Ils ont un pouvoir. Le pouvoir de roi, ce sont des rois qui sont assis sur ce trône, sur ces 24 trônes. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait se passer d'avoir 24 rois assis autour de lui, c'était bien la personne qui est assise sur le trône central. Et nous avons ici quelque chose d'extraordinaire. Nous ne savons pas qui sont ces 24 anciens, mais nous savons une chose, c'est que la personne qui est assise sur ce trône central a voulu déléguer une partie de son autorité à ces 24 anciens. Et ça, c'est extraordinaire. Le Seigneur partage avec ses 24 anciens, quoi qu'ils puissent être, ces personnes, une partie de son autorité. Parce que son autorité, c'est l'autorité de Dieu, c'est sa prérogative, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui lui appartient. Et il les fait entrer dans la joie en partageant avec eux une partie de ce qu'il est aussi et de ce qu'il possède, une partie de son autorité. Donc c'est dans la nature de Dieu, cette délégation d'autorité. Et si nous ressemblons au Seigneur, nous allons avoir envie de déléguer aussi cette autorité. Parce que la fin du processus de délégation, au travers de ces quatre pionniers, parents, partenaires, participants, la fin du processus de délégation, c'est la délégation de l'autorité même. Si la délégation de l'autorité même, si ça n'aboutit pas à l'autorité même, à la délégation de l'autorité même, alors il n'y a pas de processus de délégation. On peut déléguer des tâches, on peut accompagner quelqu'un dans ses tâches, on peut le faire de façon progressive, mais la dernière image, c'est quand on donne la couronne et quand on donne l'autorité. C'est là qu'il y a processus de délégation. Et c'est là qu'on se pose la question, mais alors maintenant, que vais-je faire? Et c'est là qu'on est ouvert à l'épisode suivant de notre vie avec le Seigneur. J'ai toujours aimé cet épisode de Élie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il donne tout. Il donne son manteau, il donne même une partie de son esprit. C'est difficile de faire plus, hein. Puis il est... Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a donné tout ça à Élisée. Il avait juste oublié qu'il y avait une porte ouverte pour lui dans la gloire. Et qu'il allait reparler plus tard dans le Nouveau Testament au Seigneur Jésus-Christ lui-même sur une montagne avec Moïse. Comment est-ce qu'il aurait pu imaginer ça s'il n'avait pas laissé son manteau et une partie de son esprit? N'est-ce pas? Il y avait quelque chose de beaucoup plus grand pour lui. Il n'a pas regardé ce qu'il a perdu, il a regardé à ce qu'il allait gagner. Ce qu'il allait gagner, c'était tellement grand, tellement immense, qu'il fallait d'abord qu'il enlève son manteau pour pouvoir avoir la phase suivante. C'est une joie, la délégation. Et la délégation du pouvoir est une joie. Parce que celui qui donne ce qu'il a reçu, il recevra encore plus de la part du Seigneur. C'est dans le cœur même du Seigneur de déléguer cette autorité. Et je pense qu'un serviteur, une servante, selon le cœur de Dieu, aura à cœur de vivre ce processus de délégation, non pas comme une fatalité ou comme quelque chose qui doit nécessairement arriver, mais comme quelque chose qui fait partie de notre ministère et qui fait appel aux choses les plus profondes qu'on a dans notre cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole.